podcast. Pour la première fois en 2026, bienvenue à un podcast Radar. Encore une fois avec moi, Hugo Reich.
Salut des autres.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va super bien, mais aujourd'hui, on n'a pas Oli avec nous. C'est plutôt Jacob en remplacement. Salut, Jake.
Ou plutôt Éric Lapointe.
Ouais, t'as un petit peu la misère avec ta voix. Oui, c'est bien correct. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Parce que anyway, l'important, ce sont les connaissances.
C'est vrai.
Le contenu et non le contenu. Commençons évidemment avec le Canadien de Montréal, qui est peut-être une des équipes de l'heure dans la Ligue nationale de hockey. Depuis qu'on s'est laissé avant les fêtes, super beau voyage. Évidemment, on partira pas en détail sur toutes les rencontres à l'étranger. Mais de façon générale, c'est vraiment une équipe qui performe bien dernièrement. Mm-hmm. J'ai l'impression que le Canadien, Hugo, même si c'est une équipe qui est très jeune, c'est une équipe qui a gagné énormément en maturité depuis le début de la saison.
Oui, absolument. Si je fais le parallèle maintenant avec les Blue Jays au baseball, on dit tout le temps que c'est une équipe qui évolue ensemble, que la chimie d'équipe est là, puis tous les gars veulent jouer ensemble. Pis c'est ça que je sens à Montréal aussi. Ben on le voit, là, Martin Saint-Louis, dans ses speeches, dans les petites vidéos que les Canadiens mettent là, sur Instagram après les matchs, après les victoires, Saint-Louis ne dit pas grand-chose. On sent déjà que le groupe est soudé, on sent qu'ils trippent ensemble.
Exact.
Puis ça fait 2 ans là, vraiment que le voyage du temps des fêtes, ça va bien. On revient de là, on est confiant. Puis en plus, on savait que les Canadiens avaient de la misère à gagner le match de retour. Je pense qu'il était comme 2-5 avant le match d'hier. Puis ben là, on réussit à gagner ça, on réussit à garder le momentum. Ça, c'est vraiment intéressant aussi.
Ouais, puis en plus, je regarde dans les dernières années, le Canadien, souvent, on allait élever notre jeu d'un cran contre les bonnes équipes et contre les moins bonnes équipes, ouais. On avait tendance à perdre un peu l'intensité. Hier, c'était complètement le contraire. Ouais. Je le sais que les Flames au classement, c'est pas une équipe de pointe. Le Canadien leur a laissé aucune chance.
Exact.
Dans les dernières années, ça aurait été un réel match piège.
Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais.
Puis j'ai un ami justement qui me parlait de ça récemment, qui me disait pourquoi le Canadien est toujours bon contre les bonnes équipes, puis mauvais ou l'échappe contre des équipes moindres au classement. Pour moi, c'était le syndrome d'une jeune équipe, justement, qui voyait des gros défis devant eux, était très motivé, mm-hmm. puis le lendemain, pouvait arriver dans un match piège, justement. Puis de voir qu'on est rendu à l'autre étape d'aller contre les Flames, de dominer de A à Z à la maison, de retour d'un long voyage, ça aurait pu être un gros piège, comme tu l'as dit. C'est vraiment encourageant pour la suite.
Ouais, parce qu'on est peut-être tombé dans ce panneau-là, diront certains, contre les Blues. Personnellement, ouais. Je pense pas.
Ben
je
non,
pense
ben
qu'on s'est fait voler, ouais. Mais on n'a pas... On a quand même généré des chances de marquer. La rondelle ne voulait pas pénétrer dans le filet. Ça arrive. Il y a des matchs comme ça. On ne peut pas être parfait tout le temps. Mais de façon générale, la constance est là. Slavkovski, très constant. Le premier trio hier a été très, très bon. Suzuki, Caulfield et même Texier a été très bon. Vraiment, le Canadien pointe dans la bonne direction. Mais je donne beaucoup de crédit à travers ça à Jacob Fowler. Vous le savez probablement à la maison. Je ne suis pas la personne qui était le plus enchantée de le voir débarquer avec le Canadien. Je trouvais que c'était un peu tôt. Ben, il me fait mentir.
Ah, il relève le défi à fond, Jacob Fowler. Puis écoutez, là, je veux dire de quoi, là? C'est un hot take, OK? Je pense qu'il va être brûlant. Même si tu mets un parasol, il brûle, OK? Jacob Fowler, en ce moment, se comporte beaucoup mieux que Carey Price lors de ses débuts dans NHL.
Ça, c'est très gros comme déclaration.
Parce que, souvenez-vous, OK? Carey Price, dans ses premières années, il y avait une certaine ambivalence qui existait par rapport à ses performances. Il était gros, il se déplaçait bien, il pouvait être confiant lors de certains matchs, mais c'était pas constant. Du côté de Jacob Fowler, je sais pas si c'est une mentalité américaine, mais c'est quelque chose qu'on voit au travers des Connor Hellebuyck, des Jake Oettinger, des Jeremy Swayman, tous ceux qui ont grandi dans la NCAA. Il est tellement confiant, il est tellement relax, il a aucun mauvais retour, jamais. Puis même dans les performances où ça a moins bien été, il a trouvé un moyen de rebondir, puis il a toujours pris le blanc. Avec Carey Price, j'avais le feeling qu'il y avait beaucoup plus de zones grises quand il a commencé, à un point tel qu'on l'a même pas mis en série en 2010. Ça a été Yaroslav Halak. Et par la suite, ça a été un peu plus difficile jusqu'à temps qu'il trouve vraiment son air d'aller après 24-25
ans. Mais là, t'es pas en train de comparer Fowler à Price non plus dans le sens de potentiel, de plafond, d'accomplissement de carrière. C'est vraiment de la façon qu'il se comporte à son début.
Parce qu'on dit que les deux vont être le gardien de la franchise. Les deux ont été ou vont être le gardien de la franchise.
Ils ont été identifiés comme ça rapidement.
Exact. Price a été ça. Shot première ronde, ça a été mon total. Let's go, on y va. C'est ride or die avec lui. Fowler, c'est un peu la même affaire. Ça va être le gardien du futur quand le Canadien va être prétendant pour la Coupe Stanley. Je suis pas en train de les comparer les deux. On sait pas ce que la carrière dans la LNH réserve à Jacob Fowler, mais présentement, je le trouve plus confiant, plus déterminé que Carey Price était à ses débuts.
T'en penses quoi, Jake?
Ben écoute, c'est quand même impressionnant de se dire ça, de pouvoir faire la comparaison, là, juste de base, d'avoir vu un gardien comme Carey Price puis de pouvoir le comparer à Jacob Fowler. Je pense que c'est quand même tôt, mais très encourageant de le voir aussi calme. Puis moi, c'est ce que je retiens le plus de Fowler maintenant, c'est que tu peux pas le retourner à Laval en ce moment. Ne serait-ce que non seulement il gagne les matchs, mais il gagne de façon très imposante, s'impose devant le filet, est calme, dégage une confiance là, qui rappelle les grands gardiens américains comme Oettinger, Hellebuyck. Écoute, je serais pas prêt à le comparer à Carey Price tout de suite, mais c'est sûr que c'est plus encourageant comme début de carrière que ce qu'on a vu au niveau de Carey Price.
Moi aussi, je trouve que, écoute, je trouve ça fort, là, la comparaison avec Price. Je comprends, cela dit, et c'est vrai, t'as raison, là, que Price... par moment, même on avait échangé Cristobal Huet pour essayer de...
On lui faisait la place
tout de suite. C'est toi vraiment qui est numéro un, puis on veut... T'as pas de compétition, puis vas-y. Sauf qu'il y a un aspect de Fowler qui me fait beaucoup penser à Price. Ça a l'air facile devant son filet. De par son positionnement, se déplace, il est square, fait face au tireur, arrêt facile. Et là, finalement, tu regardes un match comme hier, comme les Flames, tu te dis, ouais, mais les Flames, ils ont... pas vraiment eu de chance de marquer. Est-ce que les Flames n'ont pas eu de chance de marquer? Peut-être, c'est vrai. Mais il y a peut-être des chances de marquer de qualité qui finalement ont été effacées, tout simplement parce que Fowler, dans son positionnement, il était bien placé et il faisait l'arrêt. C'était la même chose avec Price, là.
Ouais, puis une de ses plus grandes forces à Price, ça a été sa, la manière de voir la rondelle, tu sais, son puck tracking qu'on dit, là. Fowler, c'est la même chose.
Même s'il s'est fait avoir, par contre, là-dessus.
Oui, sur un écran flash, là, vraiment, là, ça a été un... une drôle de coïncidence que les deux joueurs, tu sais, Demidov passait sur... Mais oui, effectivement, il y a des affaires qu'il va falloir qu'il corrige. Il est jeune. Ça fait juste, quoi, 8 départs qu'il y a dans la ligue. Fait que c'est ça.
Mais
ça,
tu mets Doberge devant le filet hier à place de Fowler, tu te dis peut-être pas la même chose, que les Flames ont eu aucune chance. Parce que je pense qu'on est aux antipodes, le Fowler et Doberge. Au niveau du style de gardien, un Fowler qui va être calme devant son filet, va avoir l'air de contrôler le match, Doberge souvent déporté, très athlétique. Et c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup plus un gardien qui est en contrôle, qui fait paraître l'autre équipe comme s'il n'avait pas eu de chance de marquer, qu'un Doberge qui pourrait quand même gagner le match, faire les arrêts, mais va toujours être déporté, va toujours avoir l'air de donner des grosses chances de marquer à l'adversaire.
Spectaculaire, ça c'est sûr.
Ouais, c'est sûr. T'sais, il va avoir le highlight reel. Il va l'avoir, c'est sûr.
Puis Price, dans le temps... ce qu'on donne comme exemple était frappant lorsque l'auxiliaire s'amenait dans la rencontre. Ouais. Tu avais 3, 4, 5, 6 départs dessus de Price. Là, tu donnais un départ au deuxième gardien. Puis là, soudainement, il me semble la défensive est moins étanche. C'est ça. Il me semble on donne de plus grosses chances de marquer. Ben, je pense que c'est un peu l'œuf et la poule.
On comprenait un peu, ouais, exact.
Dans le cas de Fowler. Glissons un mot sur Alex Texier, sur le premier trio. Je pense que c'est pas parfait pour Texier. Il est un peu parachuté là. Dans ce rôle avec le Canadien, avec Suzuki, Caulfield, parce que Slavkovski, Demidov, Kapanen, ça fonctionne à plein régime. D'ailleurs, Kent Hughes a mentionné Kapanen à long terme, sans de deuxième trio, aucun doute avec ça.
C'était à sa place,
impressionnant quand même de voir le directeur général être autant incisif dans ses propos. C'est donc dire qu'on démantèlera pas ce trio-là. Zachary Bolduc n'a pas saisi sa chance. Donc, un peu par défaut, Taxi se retrouve à être sur le premier trio. C'est pas parfait.
Mais il fait bien, honnêtement.
Mais de façon générale, il fait bien. De hier, il a été très bon et j'espère qu'il va être capable de poursuivre là-dessus.
C'est ça. C'est travailler sur une constance, mais je trouve que son style de jeu est complémentaire à celui de Suzuki et Caulfield. D'ailleurs, je me demande quasiment s'il a fait. Tu sais, on a assez de preuves pour que Kent Hughes fasse. Hey, est-ce qu'on le prolonge? Vous en pensez quoi?
Moi, je pense que c'est trop tôt pour lui donner une prolongation de contrat. Il n'y a absolument rien qui presse. On parle quand même d'un joueur qui a été soumis au balotage, qui n'a pas été réclamé. Un joueur qui gagne 1 million $ pour un an. Je pense qu'il rend de bons services aux Canadiens. Laissons la saison se dérouler et reparlons-nous durant la saison. Bon, je n'exclus pas du tout de le ramener. Je pense qu'il est très heureux d'être dans un contexte francophone, centre-belle. Tout ça, ça lui plaît. Good, tant mieux, excellent.
Ouais, puis c'est ça, il se moule bien à la foule, à l'environnement.
Exact. Et probablement qu'à l'image de tous les autres, il va prendre un peu moins d'argent sur son salaire pour signer ici, si c'est son désir et le désir du Canadien. Mais pour l'instant, je pense que début janvier... ça va un petit peu prémédité pour commencer à parler de prolongation.
Je pense que tu as déjà fait une belle fleur de l'amener dans ton organisation, lui donner une autre chance. Ça fonctionne présentement. Je pense pas que son clan pense déjà au prochain contrat ou soit insulté que ça se fasse pas rapidement. Je pense qu'il va vivre le moment présent. Puis j'exclus pas justement de le ramener l'an prochain, surtout si ça peut fonctionner au niveau constance sur un premier trio. Écoute, c'est un cadeau du ciel d'avoir un joueur comme ça. Non, je pense pas non plus.
Mais c'est ça. C'est en anglais, on dit un happy marriage. Là, il était à la bonne place au bon moment. Ça a fonctionné. Puis ça, c'est le style de joueur aussi, je pense, qui va faire sa chance quand il va être motivé.
Ouais. C'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les blessures font en sorte que les opportunités à certains, dans ce cas, cas-ci, c'est même pas une opportunité. C'est un contrat, finalement, que Texier a décroché avec le Canadien. Parce que c'est des gars comme Kirby Dach qui sont blessés, qui sont pas en mesure de faire le travail. Dach, hier, Patrick Friolet rapportait qu'il a été vu avec une botte thérapeutique. Il y a quelques secondes à peine, au moment qu'on enregistre, il est à peu près 11h ce matin, Kirby Dach sur la patinoire, patiner, en train de patiner. Très difficile de savoir sur quel pied danser dans le cas de Dach. On veut user de prudence. En même temps, il est de retour sur la glace. Selon vous, est-ce que vous croyez qu'il pourrait revenir au jeu, disons, d'ici les deux prochaines semaines?
Ben, j'espère. En tout cas, je ne sais pas pourquoi le Canadien est autant cachetier dans son dossier.
Ouais, mais c'est
dans
tout son le temps comme ça, Hugo. Oui, je sais, mais
j'ai le sentiment qu'on l'est plus que d'habitude. C'est peut-être juste moi, là. Puis peut-être juste parce qu'on veut faire attention à date, puis on sait qu'avec les blessures, avec le manque de performance, on va être plus fragile là, au niveau des médias, on va être plus prudent, en fait. Fait que j'ai hâte de voir, mais oui, là, je pense que si t'es capable de faire des changements de direction de la sorte en pratique, c'est parce qu'éventuellement, tu vas être capable de revenir au jeu. Les deux prochaines semaines, je pense que c'est réaliste. Puis je pense que ça va être, ça va bénéficier le Canadien. On veut quand même un Kirby Dach en santé dans l'alignement, là.
Ouais.
Tu sais, j'espère que ça va se faire au cours des deux prochaines semaines. Je pense que c'est réaliste avec ce qu'on voit ce matin sur la glace. Moi, ce que je veux absolument, c'est de le voir avant la pause des Jeux olympiques. T'sais, avoir une idée de ce qu'il est capable de nous donner, fait que ça soit t'sais, au cours de la prochaine semaine, deux semaines, peu importe. Je veux qu'il y ait au moins 2-3 matchs avant la pause des Jeux olympiques, voir ce qu'il est capable de nous donner. Après ça, t'sais, est-ce que le Canadien est cachotier dans le dossier de Kirby Dach? Je pense pas. Je sais qu'il y a eu une petite confusion au niveau de Kent Hughes au bilan de saison. Ben,
c'était bizarre un peu.
C'était quand même bizarre. Ça se pose des questions. Est-ce qu'il y a eu un step back à quelque part, de l'enflure ou peu importe? Ça reste encourageant de le voir là, ce matin sur la glace.
Ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est pas le premier cas hein, de genre ce manque de communication-là du côté médical du Canadien. T'sais, on se souvient Kevin Gouley qui avait repris l'entraînement un peu plus tôt avec son équipement complet. Puis là, finalement, ça l'a retardé. Puis,
avant d'être opéré, exact.
Ça aussi, là, tu sais, c'est bizarre.
Mais c'est particulier. Je pense que c'est normal aussi dans les cas de blessure de changer comment tu le communiques avant quand t'avais besoin qu'il revienne rapidement, puis maintenant que ça fonctionne. Tu sais, le club gagne en ce moment. Fait que le 5-6 semaines que t'avais dit au début que t'avais absolument besoin qu'il soit là dans ton alignement, ben, tu peux peut-être prendre un peu plus de temps.
C'est ça, t'as beaucoup moins de pression.
T'as de la latitude en ce moment.
On regarderait pas mal plus la situation de Goulet et Dach si le Canadien était.
Exactement.
2-9 à ses 11 derniers matchs. On s'entend, c'est une évidence. Il y en a d'autres des joueurs qui ont été blessés cette année. C'était le cas de Brady Tkachuk. Il a manqué un peu de temps du côté des Sénateurs d'Ottawa. Il est revenu quand même depuis un petit moment. Les Sénateurs en arrache, par contre, si bien que Tkachuk, dans un match il n'y a pas si longtemps, il s'est fait donner un coup de poing sournois de la part de Logan Stanley. Vu la séquence?
Ouais, dans un arrêt de jeu, c'est fou.
C'est quand même chien, honnêtement. Tu sais, t'es en pleine échafourée. Écoute, ça arrive, là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Petite dispute entre deux adversaires sur la glace. Quand même un sport émotif et passionné. Stanley, chut, laisse tomber à mitaine. Pow! Sur le caisseur. Et Tkachuk n'était pas content.
Mais non, c'est sûr, il était fâché. Puis en même temps, dans un match où les deux équipes vivent des situations frustrantes présentement, les Sénateurs qui n'ont pas d'aide de leur gardien, t'sais, avec les blessures, mais le départ de Ullmark, le fait que Miralainen, Shepherd, ça va pas bien, puis que les Jets ne s'attendaient pas à être où ils sont présentement. Il y a beaucoup de frustration là.
Ça, c'est vrai.
Puis, écoute, je comprends qu'on fait pas ça. Logan Stanley a aucun rapport à faire ça. Logan Stanley, en ce moment, il flash pas, il devrait juste se concentrer à faire sa job en ce moment. J'ai le feeling qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau hockey dans une équipe qui est terriblement poche cette année.
Ouais. Ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien ordinaire comme geste. Puis c'est sûr que les Sénateurs, par contre, ça glisse. Hein? Et c'est pas trop long dans la Ligue nationale de hockey dans une année où est-ce que on est coincé comme des sardines puis tout le monde est compacté dans le même tas. Tu peux pas te permettre d'échapper des matchs trop longtemps. Tu vas te retrouver à la traîne. Et on a vu ça par le passé. Les Sénateurs qui commençaient peut-être les saisons du mauvais pied et avaient de la difficulté à en t'sais, trop peu, trop tard pour finalement revenir de l'arrière. Là, ça a quand même bien été au départ. Mais là, c'est dans ce creux de vague-là. Ullmark a quitté pour des raisons personnelles. Tu le mentionnais. Les autres gardiens font pas le travail. Est-ce qu'on va être capable du côté des Sens de revenir? C'est pas tant le nombre de points, c'est le nombre d'équipes que tu vas avoir à dépasser pour te remettre dans le portrait des séries.
Exactement. En étant en connaissance de cause, t'es dans l'Atlantique, c'est tellement serré, ça n'a même pas d'allure. Tout le monde se bat tout le temps. Fait que, ouais, non, il va falloir qu'ils rebondissent quand même assez rapidement, là, les Sénateurs. On a quand même, tu sais, 2 défaites de suite. On a 5 victoires en nos 10 derniers matchs. J'ai bien hâte de voir. J'ai pas pris le temps de voir ça ressemblait à quoi le calendrier des matchs qui s'en viennent, mais ça va être important.
On joue ce soir contre l'Avalanche du Colorado. Là.
Ouais, ça,
là, nous, on est le 8 janvier. Ouais. Là. L'Avalanche qui vient de perdre deux matchs à la régulière de suite parce qu'on a perdu Devontae, parce qu'on a perdu Gabriel Landeskog. L'Avalanche reste une excellente équipe. Ouais. Ils ne font pas de cadeaux aux Sénateurs.
Non, non, ils vont
rapidement se remettre à gagner. Là.
Profiter de l'occasion parce qu'on joue contre les Sénateurs, un peu comme le Canadien l'a fait avec les Flames.
Tu sais, présentement, tu regardes le classement de l'Atlantique, les Sénateurs d'Ottawa qui pointent au dernier rang avec 45 points en 42 matchs. C'est-à-dire qu'on est derrière les Leafs, là, présentement. Là. Puis on parle des Leafs comme une catastrophe depuis le début de la saison. En ce moment, les Sénateurs qui pointent au dernier rang, ça va être très, très, très compliqué de revenir. J'espère qu'ils vont être capables de revenir d'ici la pause des Jeux olympiques, parce que sinon, je pense que c'est peine perdue là, pour la troupe du côté d'Ottawa.
Derrière les Leafs, derrière les Sabres aussi.
Derrière les Sabres.
Qui, durant la pause du temps des fêtes, 10 victoires de suite.
C'est fou, ça.
Qui avait ça, honnêtement, honnêtement? Mettons qu'à la fin de notre dernier podcast Radar, je vous avais dit, une équipe va avoir 10 victoires de suite durant le temps des fêtes. Personne ne m'aurait sorti les ça.
Non.
Écoute, il y avait autant de chances que Gonzo mange des ailes de chou-fleur.
Non, pour vrai. Pour vrai, honnêtement.
Gonzo mange des ailes de chou-fleur?
Ben oui, à chaque rassemblement. Là.
OK, c'est ça.
Autant de chances.
Okay, il y avait autant de chances. Mais c'est vrai. Puis là-dedans, il y a des victoires contre les Stars de Dallas, contre des grosses équipes. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu Tage Thompson. Il a passé au podcast Penny Chicklets, puis ils ont posé la question, comment ça, qu'est-ce qui explique ce revirement de situation-là à Buffalo? Puis il avait expliqué que Rasmus Dahlin avait callé un meeting de leadership. Fait qu'il y avait lui, il y avait Peyton Krebs, il y avait Alex Tuch, Rasmus Dahlin, Ukko-Pekka Luukkonen qui était dans ce meeting-là notamment.
Okay.
Puis les vétérans se disaient qui faisait pas assez de bonnes choses. Ou ils faisaient pas les bonnes choses comme il faut.
Ah, ça part de eux.
Ça part de
puis
eux.
Après ça, une fois qu'eux performent, ça découle aux
exactement.
Autres.
Exactement. Ah, oui. C'est ça qui est arrivé parce qu'il n'y a pas eu de changement d'entraîneur. Oui, il y a un changement de la haute direction.
Moi, ouais, Kevin Adams, à quel point ça a un impact?
C'est ça. Je sais pas à quel point, parce que je sais pas à quel point les joueurs étaient attachés à ce gars-là. Il y a ça aussi, tu sais.
Ah, parce que
tu vas jouer pour ton état-major, tu vas jouer pour ton coach, je sais pas à quel point tu joues pour ton DG.
Mais c'est qu'au final, ben, l'état-major, dans ma tête, c'est la même chose que le DG, mais peu importe. Là, le point, c'est que tu dans ton quotidien, ton directeur général. Exact. Puis le pire, c'est que cette séquence-là, elle a commencé, Kevin Adams est encore en poste.
Ouais. Mm-hmm.
C'est pas fait congédier après une défaite. Là.
Non, c'est ça.
Fait congédier après.
Après la première victoire, je pense.
Une ou deux victoires, ouais, quelque chose ça. Comme ouais. ça. Mais quand même, surprenant de la part des Sabres de Buffalo. Mm. Good for them.
Pour vrai.
Là, enfin.
J'espère pas qu'ils prennent une place de série qui empêche le Canadien de rentrer, mais c'est juste bon là, pour la Ligue nationale qu'on ait enfin un roulement et que ce ne soit pas toujours les mêmes équipes qui sont dans le bas-fond parce que.
Imagine à Buffalo. Imagine pour les partisans à quel point voir ça, ça doit être, hey, ça doit être soulageant quand même. Là.
Ça date de 2011 et au moment où on se parle, la dernière participation, ouais, série, ouais, évidemment, ouais. Au moment où on enregistre un point derrière les Penguins de Pittsburgh et la dernière place de non accès aux séries. Mmh. Bon, évidemment, tu as des équipes comme les Panthers et les Maple Leafs qui sont derrière toi, les Devils, les Bruins, les Rangers. Tu as quand même du monde derrière toi, là. C'est sûr que tout le monde s'en vient, mais quand même, ils sont là, les Sabres, ils pourraient peut-être y parvenir. Les gars, je vous amène sur les Devils New Jersey.
Mm-hmm.
Ça a été catastrophique pour Markstrom lors du dernier match des Devils. 9 buts alloués sur 24 lancés.
C'est épouvantable. Puis le fait qu'il soit resté là aussi.
C'est une saison difficile quand même pour Markstrom. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. C'est une drôle de décision. Tout le monde se souvient d'Al Montoya et les Blue Jackets, les 10 buts alloués, c'est vrai. C'est un gardien numéro 2. Le Canadien jouait le lendemain.
Exact.
On voulait reposer Price. Dans le cas des Devils, on ne jouait pas la veille, on ne jouait pas le lendemain, c'est et c'est le gardien numéro 1. Qu'est-ce qui est arrivé pour que Sheldon Keefe laisse Jacob Markstrom dans le filet pour les 9 buts des siens?
Tu sais, je ne sais pas à quel point Jacob Markstrom avait un mot à dire là-dedans. Dans le sens que est-ce que lui voyait ça comme une opportunité de tout le temps en bande? Mais à un moment donné, quand t'es goaler, tu l'as pas durant un match. Il faut que tu l'avoues là aussi. Là. Puis Sheldon Keefe, sa gestion d'effectifs en ce moment, c'est particulier. Genre, on voit qu'il joue beaucoup avec ses trios. On voit aussi que, tu sais, naturellement, les blessures n'aident pas au New Jersey, mais on dirait que ça, c'est un argument qui est continuel là, dans le cas de l'équipe.
Les blessures, là. Je veux dire, go.
On en a, tout le monde en a.
Le calendrier est tellement condensé, tout le monde a des blessures.
C'est ça, je suis d'accord. Puis je trouve qu'il y a un manque de cohésion au sein de l'alignement des Devils, mais aussi avec le coach Keefe, on le sait. On l'a vu à Toronto aussi. La prise de décision au sein de l'alignement, c'est difficile. À Toronto, c'est un cas particulier parce que les médias sont là, la direction aussi. Mais quand même, je trouve que c'est pas le meilleur coach pour gérer son alignement.
C'est de la frustration.
Ouais.
Je pense que les Devils, ils sont frustrés depuis que Quinn Hughes a été échangé au Minnesota.
Ah, clairement.
Ah, peut-être. Il y a une grogne présentement et ça se ressent clairement chez les partisans. Vous avez probablement vu ce qui s'est passé à Luke Hughes.
Mais oui, tu fais assurer.
S'il met la rondelle dans son propre filet, les huées, ce qui rappelle malheureusement Patrice Brisebois à Montréal. Là. Sauf que là, on parle d'une autre. Il vient de signer un contrat à long terme, là, Luke Hughes. Mais c'est comme si les partisans présentement, ça ne fonctionne pas. Et là, après le match de Luke Hughes, tu accordes 9 buts contre les Islanders.
Ah, c'est épouvantable.
Non, c'est épouvantable. Puis moi, ce que je trouve le plus fou dans ce match-là de 9-0, c'est qu'on a dominé au chapitre des tirs là, du côté des Devils.
Mm-hmm.
44-24.
Incroyable.
Ouais. Je veux dire, à un certain moment, tu te dis, bon, je vais enlever Markstrom. Là, ça va mieux aller. Je vais me donner une chance de gagner rapidement. Là, c'est pas comme si tu te fais outshot de 24-0 puis tu n'as aucune chance de gagner. Là, je me dis, OK, garde. L'équipe va mourir ensemble sur la glace ce soir, puis ça va se terminer comme ça, puis on efface et on recommence.
Ouais, mais
et là, ça aurait pu fonctionner, on enlève Markstrom. Là.
Mais c'est bon ce que tu dis, parce que je pense que c'est Oli qui l'a amené en onde quand on a discuté dans le club du matin. Il a dit, c'est peut-être Markstrom qui a dit, hey, sortez-moi pas de là. Jake Allen n'a pas à aller passer la mop pour mes erreurs.
C'est
là.
Ça, exact.
C'est moi qui vais encaisser les 60 minutes, puis
ouais,
je suis un grand garçon.
Est-ce que tu penses plus à toi ou au succès du club? T'sais, tu vois ton équipe qui est capable de générer, entre guillemets, de l'offensive. Ils vont pas compter, mais ont quand même eu des tirs au but à outrance.
Quand même que tu as des lancers au but.
Je le sais, mais tu sais, tôt dans le match, je sais pas, tu t'en rends compte ou tu te dis. Ouais.
Il y a une connaissance de cause là-dedans, c'est sûr et certain. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, dans cette victoire-là des Islanders, Ilya Sorokin est devenu le meneur pour le plus de blanchissage dans l'histoire des Islanders. 26.
Ah ouais?
Ouais.
Putain, il n'est pas vieux, Sorokin.
Ouais, Sorokin, c'est sûr. D'ailleurs,
intéressant. Ah, ils ont eu des gros gardiens les années 80.
Billy
quand
Smith,
même.
Notamment.
Tu sais, Billy Smith, là, il y avait toute une équipe. C'est sûr que dans ce temps-là, il gagnait des matchs parce qu'il en marquait 8.
Ouais,
il était peut-être pas obligé de blanchir l'adversaire.
Exact. Un autre fait intéressant aussi, c'est pas la première fois de l'histoire qu'un gardien de but dans le match, pas le même match, que les deux own goals de Luke Hughes. Ça, c'est là que je m'en allais. C'est pas la première fois qu'un gardien des Devils fait scorer plus qu'un but par ses défenseurs dans un match. Ça arrive en 2018, Corey Schneider s'est fait scorer 3 buts par ses défenseurs dans le même match.
Ben voyons donc.
Contre les Ducks d'Anaheim.
Ben voyons donc.
Ouais.
Ah ouais.
Ouais.
Pas payé quand même.
Ouais, c'est fou ça.
T'accordes 3 buts 3 fois ces palettes de tes coéquipiers.
Ah, ça doit tellement être frustrant.
Hey, imagine quand t'es gardien, t'es comme, vous faites quoi, les gars?
Ouais, mais des fois.
Qu'est-ce qui se passe,
genre? Exact. Je veux parler un bref instant des Islanders de New York. Sont deuxièmes présentement dans la métropolitaine. Coup de chapeau à Patrick Roy. Coup de chapeau à Mathieu Darche. Même si, honnêtement, il vient juste d'arriver, mais quand même. Je pense que la culture, l'énergie. Moi, je suis pas le plus grand fan de Lula Moriello, puis je pense que ça a fait du bien qu'on le retire, honnêtement, d'avoir les deux mains sur le volant, même si, tu sais, il sera toujours un peu dans l'entourage. Mais vraiment, les Islanders, ils sont surprenants, commencé par Matthew Schaefer. Beauharvat, qui a été nommé sur l'équipe canadienne olympique, lui aussi, il performe très bien.
Ouais.
Vraiment, ils sont... c'est un peu comme l'équipe Cendrillon, présentement dans la Ligue nationale, ou du moins une des belles surprises cette année.
Ouais, puis je trouve que longtemps, on a comparé les Islanders aux Canadiens avant que les Canadiens deviennent comme excitants avec les Hudson, Demidov, Caulfield. Je trouve que c'était deux équipes qui avaient un profil similaire. Beauharvat, faut quand même le noter. Lui, il a 21 buts cette année. Ça va super bien.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, on s'en est parlé un peu avant le pod, mais effectivement, ça devrait pas être un joueur qui aurait pu être alléchant pour le Canadien si c'était pas de son contrat, sérieusement.
Ouais.
Parce qu'il fait tout bien cette année.
Mais il était dans les rumeurs, mais son contrat faisait en sorte que je pense que Kent Hughes, qui veut vraiment avoir une saine gestion financière...
Ouais. Ça caderait pas dans le projet, là.
Exact.
Pas du tout.
Le plan était établi.
Exactement.
Il ne voulait pas aller avec ce plan-là. Glissons un petit mot sur Matthew Schaefer. Les gars, c'est quand même un défenseur qui en est pas. Je pense qu'on en parle régulièrement, mais... Il était dans les discussions pour la formation canadienne.
Ça, c'est fou, pareil. Là.
Un défenseur de grands, 18 ans.
Exactement.
C'est incroyable.
Ouais, puis il est arrivé. Matthew Schaefer est arrivé à New York, puis son adaptation dans la Ligue nationale s'est faite tellement naturellement. J'ai rarement vu ça. Puis, tu sais, avec le départ de Noah Dobson, probablement qu'on avait une certaine inquiétude par rapport à qui va être notre général à la ligne bleue à New York. Là, Matthew Schaefer est juste arrivé et, ben, écoute. 29 points en 43 matchs, 12 buts plus 10. Pas grand-chose à dire. Là,
il y a eu une petite baisse de régime, mais finalement, il est reparti. Il a marqué des gros buts dernièrement pour les Islanders.
Exact.
Non, vraiment, c'est tout un joueur. Puis, tu sais, des grosses minutes, là. Tout le temps, ça a glace.
Il est tout le temps, ça a glace. Puis ça, je pense aussi que ça inspire le reste de la brigade défensive de l'équipe. Tu sais, Ryan Pollock, Adam Pellick ont quand même aussi des grosses minutes. Ça a toujours été des défenseurs responsables pour les Islanders. Le Romanov est blessé en plus. Comme, c'est motivant de voir
Romanov,
ça.
Romanov, Paul Mary.
Paul Mary aussi.
Puis ça ne semble pas du tout affecter les Islanders qui continuent à produire. D'ailleurs, parlant de jeunes joueurs, Macklin Celebrini avec les Sharks.
Ça, c'est,
je
c'est
regardais
fou,
tantôt
ça.
Les chiffres. Macklin Celebrini a 67 points. Les Sharks ont 134 buts de marqués.
Ah, c'est
exactement 50%.
La définition du trophée Hart.
Ah oh, ouais.
Selon toi, c'est le Hart. Ah, ben écoute, pour le moment, il n'y a pas d'autre choix pour moi. Là.
Ben écoute, Nathan McKinnon est sur un rythme de 70 buts, 150 points.
Ouais, mais moi, c'est surtout l'argument de enlève McKinnon. Le Colorado est quand même compétitif. Pas autant bon, mais compétitif.
Mais le Colorado, moi, j'ai de la misère avec ça des fois. Je comprends là, qu'il y a Makar, mais Colin, McKinnon, il est...
Bon, oui, on est d'accord là-dessus. Là. C'est même pas un argument. C'est plus que enlève Celebrini aux Sharks présentement. Là.
Non, je pense que le trophée Hart dérange un peu. C'est comme, on dirait que c'est mal.
Okay, les parfait. Critères, sont
le
les critères,
trophée Hart parfait, le joueur le plus utile à son équipe, il pourrait-tu avoir aussi le trophée du meilleur joueur de l'année?
Ben oui. Ouais, ouais, le joueur de l'année, ça, c'est bon, ça.
Tu sais, techniquement, il y a le Ted Lindsay qui est le meilleur joueur selon ses pairs.
Selon les pairs, oui.
Mais le trophée Hart, c'est pas le, on dirait que c'est pas le MVP, alors que tout le monde le considère comme le MVP. Ouais. C'est le joueur le plus utile à son équipe. Ben, dans ce cas-là, t'as raison. Ça devrait être Macklin Celebrini. Si les Sharks font les séries,
ouais, exact.
Il est à 1000 devant tous ses coéquipiers au niveau de points, mais Nathan McKinnon éclipse des records. La dernière fois qu'un joueur a fait 70 buts, faut remonter à Timo Selanne à son année recrue. Là,
c'est fou,
qui avait fait 76.
Parce que je pense que Austin Matthews avait terminé à 69. Hein?
69.
Ouais, c'est ça.
Exact.
Ah non, c'est fou, ça. Nathan McKinnon, on dirait qu'il a encore upé son jeu. Là. Il est tellement fort.
Mais mon point dans tout ça, c'est de dire, je trouve ça dommage qu'un gars comme McKinnon soit pénalisé, entre guillemets.
Parce qu'il est bien entouré.
Ça. Parce qu'il est bien entouré.
Ouais, je comprends.
Tu sais, ça n'enlève rien à son jeu, à lui.
Mais non.
Mais t'as raison que la définition du trophée Hart, c'est clairement Celebrini.
Ouais. Ouais. On parle de trophée, là. Il y a le blend de saison qui se fait un peu partout dans la ligue. Il y a les différentes chaînes NHL aussi qui font leur top là, en vue des trophées. Si on y va avec le Calder, on parlait justement de Matthew Schaefer qui est clairement le favori présentement.
Ouais.
Avec le classement de NHL, on a Matthew Schaefer, Wallstedt en deuxième, Seneca troisième, Demidov quatrième et Askarov cinquième. Je veux vous entendre là-dessus. Je pense pas qu'il y ait de gros débats à avoir, mais Seneca devant Demidov, vous en pensez quoi?
Ben, c'est serré. Je pense que cette lutte-là va être serrée pour toute l'année. Je pense que Beckett Seneca, on s'attendait pas à ce qu'il y ait une éclosion aussi rapide de son bord. Mais c'est cool de voir ça aller. Puis, il y a tout le temps, puis Gilbert aime ça l'amener, là, cet argument-là du défenseur, comme quoi c'est plus difficile. Puis, il y a la production. Fait que, tu sais, selon moi, Schaefer va toujours être au sommet de cette course-là. Mais, ces deux styles de jeu sont différents, Demidov, Seneca. Selon moi, Demidov va avoir le dessus d'ici la fin de l'année, honnêtement.
Moi, je pense qu'il l'a déjà. Au moment où on se parle, Demidov devant Seneca, je pense que cette liste-là de LNH.com, c'est quand même un processus qui se fait sur une certaine période. Mm-hmm. Il faut t'envoyer les formulaires, il faut que les différents journalistes qui votent répondent. Après ça, il faut que tu comptabilises. Après ça, il faut que tu publies. Et là, tout ça se met en branle. Je suis pas convaincu, moi, que les journalistes ont voté en date du 6 janvier.
Ouais. Non, c'est sûr.
Les Ducks viennent de traversent en ce moment une très mauvaise période. C'est beaucoup plus difficile, tandis que Demidov est pratiquement point par match depuis la mi-décembre.
Ouais,
fait que je pense que tranquillement, l'ordre s'inverse. Pour ma part, Schaefer 1, aucun doute, au moment où on se parle. Cela dit, c'est pas terminé.
Mm-hmm.
Et Demidov 2. Ce serait ça mon ordre pour moi. Mais c'est une course à 4. Askarov, on peut l'oublier tout de suite.
Ouais, t'as raison. Je pense que Seneca aussi, éventuellement, ça pourrait peut-être diminuer. J'espère que Wallstedt est incroyable aussi.
Alors, Wallstedt, écoute, c'est vraiment une course à 4.
Ouais, vraiment, vraiment.
Mais tu vois, et ça, on en parlait un peu plus tôt, là, avant de rentrer en onde, l'année de Crosby, là, l'année recrue de Sidney Crosby, duo au lockout, Ovechkin repêché en 2004 et Crosby en 2005, les deux ont amorcé leur carrière en même temps. Crosby a fait au-dessus de 100 points.
102.
Crosby n'a pas gagné le Calder. Le Calder, ce n'est pas la finalité de tout. Tu as des années où est-ce que tu vas gagner le Calder dans une cuvée super faible, puis au final, ça ne donne pas grand-chose. Et tu as d'autres années où est-ce que, OK, le Calder va t'échapper parce qu'il y avait meilleur que toi cette année-là, puis c'est that's it. Celebrini n'a pas gagné le Calder l'année dernière.
Mais Matty Beniers a gagné un Calder.
Exactement. Si Demidov ne gagne pas le trophée Calder, et que c'est plutôt Matthew Schaefer, mais que les deux deviennent des super vedettes dans la Ligue nationale de hockey, c'est loin d'être la fin du monde.
Ben oui, exact. Puis je pense, en tout cas, je pense pas que ça devrait être un critère pour évaluer un joueur, parce que justement, les carrières sont tellement différentes, tu sais pas avec quel groupe tu vas te retrouver, avec les équipes, où ils sont rendus dans leur développement. Fait que c'est intéressant. Et les gars, vous avez parlé des Ducks, je vais vous amener sur mon radar. La confrontation Flyers-Ducks.
Mm.
Rivalité qui se crée, là, quand même, là, avec l'histoire Cotter-Gauthier, qui change de bord, Zegras. Trevor Zegras qui change de bord. Trevor Zegras qui dit à Scott Hartnell, comment tu t'es senti? It was fucking amazing. Ça, c'est malade, là, dit deux fois.
Parce qu'il a marqué deux buts dans le match.
Ouais, il a marqué deux buts, exactement.
Dans la victoire des Ducks, comment tu t'es senti?
Exact.
Fucking amazing.
Puis lui, t'avais mis en contexte, il avait raté le premier affrontement entre les deux équipes. Non, honnêtement, là, c'est
mais
cool
Gauthier
de voir
aussi
ça.
A marqué dans ce match-là.
Gauthier aussi, c'est vrai.
Puis là, il était là avec la foule, puis.
Ah ouais, ouais, ouais.
Il envoyait promener la
exact,
foule.
Exact.
C'est cool parce que tu reviens il y a quelques années, puis je te dis un affrontement Ducks Flyers. Pas personne là, qui care. Okay, peut-être Chris Pronger contre une machine robuste, intéressant. Mais sinon, là, dans les dernières années, c'est pas intéressant. Mais vraiment, là, ça a été un affrontement qui était marqué, qu'on a encerclé sur le calendrier, que tout le monde a surveillé. Ça s'est battu, il y a eu des coups chiens, la foule était investie.
Écoute, puis moi, honnêtement, s'il y a une foule que tu veux pas provoquer, c'est la foule de Philadelphie. Elle est dangereuse,
mais je comprends
cette foule-là.
Pas pourquoi Cotter Gauthier voulait partir de là. C'était un beau marché de hockey. Ils t'ont fait confiance, t'ont pêché haut, cinquième de mémoire. Tu sais, pourquoi est-ce que tu tenais, OK, la promesse, puis finalement le changement de garde, puis Daniel Brière, puis on m'avait dit, OK, je comprends, mais tu restes un jeune joueur de hockey.
Exact, cinquième.
Tu sais, je trouve que dans les. Ça se perd un peu, ça, cette patience-là, puis Gauthier a décidé de préférer aller du côté d'Anaheim. Écoute, les Ducks vont être une excellente équipe, le bleu n'est pas le point, c'est juste, t'avais quand même la chance d'évoluer. Devant les partisans des Flyers.
Oui, puis c'est une belle scène. C'est une meilleure scène, je pense. En termes de partisans puis de réception, c'est une meilleure scène à Philadelphie qu'à Anaheim. Ça va toujours rester de même. Mais écoute, lui, il voyait peut-être une meilleure opportunité là, tout comme Trevor Zegras qui a décidé de ne pas faire la baboune parce qu'il avait plus vraiment le contrôle à Anaheim, on s'entend. Mm-hmm. Mais de juste prendre la balle au bon puis de connaître beaucoup de succès à Philadelphie. Puis je trouve, honnêtement, plus la saison avance, plus il y a le style Flyers.
Ouais. Êtes-vous surpris que les Flyers ont préféré prolonger Christian Dvorak avant Trevor Zegras?
Ça, c'est une bonne question, mais on parlait beaucoup de l'importance d'avoir des joueurs de soutien, de qualité. Ouais. Là, vous allez me dire, Trevor Dvorak, wow, gros lapsus. Christian Dvorak. Christian Dvorak a joué sur le premier trio cette année, oui, mais c'était pas, ça allait pas être la solution pour le restant de l'année. C'est important d'avoir des gars de même, mais... Je trouve ça quand même impressionnant qu'un Christian Dvorak vale 5,15 millions de dollars. Pour moi, dans ma tête, ça marche pas, mais en même temps, c'est à cause de l'augmentation de la masse salariale, la protection du joueur. Est-ce que tu vas overpay un peu pour garder ses services? Je sais pas, puis en même temps...
C'est tellement d'argent. En fait, moi, c'est surtout le terme là, qui me chicote beaucoup. C'est le 5 ans, mais écoute, clairement, du côté de Philadelphie, on est tombé en amour avec Dvorak.
Ouais.
On est tombé en amour avec ce qu'il nous apporte soir après soir, de la constance comme joueur de soutien. On voulait l'avoir autour des jeunes pour les années à venir, mais écoute, moi, le terme, je le comprends pas. Tu en as parlé beaucoup dans le club du matin, des autres, tu comprenais pas. On se menottait un peu du côté des Flyers.
Ouais.
Écoute, on se dit qu'on aime ce qu'il apporte en ce moment, puis que dans 3-4 ans, son 5 millions va valoir un 2-3 peut-être, puis que ça va être des miettes, mais écoute... C'est un gros risque. Puis pour moi, c'est un drapeau rouge d'un joueur qui performe dans une année de contrat et dans une année aussi avec le Canadien où il terminait son contrat.
Ouais, puis si on est honnête, par contre, avec le Canadien, il a été beaucoup blessé en début d'entente et on l'a moins vu. Quand il était en santé, il a mieux performé. Mais quand même, 5,15 millions.
C'est énorme.
Je comprends qu'il joue présentement sur ta meilleure unité, mais pour moi, c'est un centre de troisième trio, Christian Dvorak, dans une bonne équipe. Je suis pas super impressionné de Daniel Brière. Tu sais, la transaction Cotter-Gauthier, on vient d'en parler, ça a quand même été difficile. La sélection repêchage de Jet Luchenko, qu'on a laissé passer Yves Bouillum, je suis pas convaincu non plus. Il y a une couple de petits gestes comme ça là, qui me laissent un petit peu en plan. Puis j'ai l'impression que les Flyers se condamnent un peu à rester dans le mushy middle. On reste dans le milieu. Là. Puis là, dans ce temps-là, ben, tu repêches 14, 18, 13... Tu fais une ronde de série, t'es content, tu te fais éliminer en 6, l'année d'après, t'es rate de peu.
On a de la misère à comme évaluer un peu les standards. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez que les Flyers en ce moment jouent un peu trop au-dessus de leurs moyens? Si tu les fais Rick Tocchet?
Assurément Rick Tocchet.
Ouais.
Ouais.
Assurément Rick Tocchet. Puis il a reçu des votes. D'ailleurs, on parlait des trophées tantôt. Je ne sais pas si tu vas continuer avec ça ouais. après. Là. Il était dans les entraîneurs-chefs qui étaient soulignés
mm-hmm.
pour les différents exercices. J'ai vu qu'ESPN avait fait ça à LNH.com. Il était là, là dans le Jack Adams ouais. Rick Tocchet. Puis c'est pleinement mérité, honnêtement, dans son.
Je lis justement là où Jack Adams, selon le NHL. Jared Bednar qui est en première position du côté de l'Avalanche. Joel Quenneville, deuxième du côté des Ducks. Todd McLellan du côté des Red Wings. John Hines, Minnesota, en quatrième. Puis ensuite, on mentionne justement de manière honorable Rick Tocchet, John Cooper et Clint Gulutzan.
Pas de Patrick Roy, pas de Martin Saint-Louis.
Ouais.
Pas de Ryan Warsawski.
Non plus.
Quand même une couple de très grosses surprises pour moi. Ça va changer cette liste-là.
J'espère.
Ça va changer. En tout cas, j'ose croire. D'après moi, si ça se poursuit, là, Ryan Warsawski, ça prend des votes.
Oui, en plus, en prenant en considération que probablement que ses enfants sont détenus à quelque part et il ne peut pas les voir. T'sais.
C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de vote dans le fond.
C'est ça.
Parce que on est comme, on fait des menaces. Là. On donne pas le trophée si tu ne relises pas tes enfants.
Tu donnes tes enfants, il faut au moins que tu aies des votes. Bref.
Exact, tu n'as pas le choix.
Ouais.
On a parlé de combat, on a parlé d'un peu de robustesse. Ah, tu l'as-tu continué avec les trophées? C'est-tu ton radar, Jacob?
Oui, c'est mon radar. J'en ai fait deux. Je pourrais en faire deux plus tard là, quand on parlera de défense.
Vas-y.
Ok, j'y vais.
On est lousse.
On a du côté du trophée Norris que je trouvais quand même intéressant du côté de NHL.com. Bon, sans surprise, le Cale Makar au premier rang, Zach Werenski deuxième, Miro Heiskanen troisième, Quinn Hughes quatrième et mention honorable à Moritz Seider, Lane Hudson et Jacob Chychrun.
Mm-hmm.
Donc Lane Hudson qui arriverait là, à égalité au cinquième rang avec Seider présentement. Êtes-vous d'accord avec cette liste-là? Est-ce que vous auriez mis Hudson plus haut dans ce classement-là?
Plus haut, mais pas scandalisé.
Ouais, moi non plus. Puis comme Deso l'a dit un peu plus tôt... Les votes vont changer éventuellement. Je pense que tout va se rééquilibrer aussi. Puis, Lane Hudson va, sûrement, va grimper un peu.
Mais les trophées, ça reste un gros concours de popularité.
Ben ouais.
Et je pense que tant que tu n'es pas dans la gang, on n'a comme pas le réflexe de voter pour toi. Il y a des trophées qui sont encore pires que d'autres. Le Selke en tête de liste, là, c'est vraiment un gros trophée de réputation. Mais je pense que juste, on n'est pas comme habitué de voter pour Lane Hudson. Mm-hmm. Une fois qu'il va être capable de briser le plafond de verre, là, parce que je le sais, l'année passée, qu'il y a eu des votes là, pour le Norris, ouais. Puis je le sais qu'il a gagné le college. Tout au courant de ça. Mais éventuellement, ça va devenir plus un réflexe. On va plus avoir tendance à inscrire, tu sais, quasiment par défaut, Lane Hudson dans la catégorie. Et je pense que tranquillement, il va avoir un peu plus de votes à la fin de l'année. Pour moi, au moment où on se parle, il y a une saison digne d'un finaliste.
Au moins, ouais.
Si c'est pas le cas, c'est dommage, sans plus. Ça viendra bien évidemment.
Mais tu vois, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je sens que Lane Hudson fait déjà partie de la conversation. Le meilleur exemple là-dedans, c'est regarder un peu le comportement des comptes de la Ligue nationale, ses réseaux sociaux. Il n'y a pas beaucoup de posts sur le Canadien, puis présentement, il y en a beaucoup plus. C'est pas mon seul argument, mais je veux dire, en ce moment, je pense que le Canadien a une visibilité assez importante. Je pense que Lane Hudson, le fait que ce soit un joueur américain aussi, on comprend un peu la tendance de la Ligue nationale avec les joueurs américains, on met en valeur la NCAA encore plus. Je pense que Lane Hudson fait déjà partie de ces conversations-là.
Oui, mais clairement, le Canadien ne fait que grandir.
Hein, ouais.
Parce que ça devient de plus en plus une formation sexy. Je me souviens, je pense que c'est Renaud qui m'avait dit ça l'année passée dans le club du matin. Les matchs qui étaient mis de l'avant... C'était-tu sur ESPN? En tout cas, peu importe.
Mm-hmm.
Le point étant qu'un télédiffuseur mettait de l'avant des rencontres. Tu avais des matchs des Blackhawks de Chicago pour Connor Bedard. Tu avais des matchs encore des Penguins de Pittsburgh pour Sidney Crosby. Mais c'était souvent les mêmes adversaires qui revenaient. L'Avalanche, le Lightning, tu sais, des marchés américains. Puis ouais. On voulait mousser ça. Aucun match du Canadien de Montréal. Et c'est normal parce que tu avais une équipe qui était en reconstruction, une équipe qui n'était pas nécessairement très électrisante, très attrayante
exact.
Pour un télédiffuseur. Mais de plus en plus, le match du Canadien, en dehors du Québec, là, pour monsieur, madame, ouais. Tout le monde qui zip-zap, là,
devient
un match must-see.
C'est ça, c'est
un spectacle. On va faire, OK, oh, t'as peu, là, ici, là, à soir, Canadien Panthers. Ça va être bon.
Mm-hmm.
C'est le match que je vais choisir de regarder parmi les 10, 12, 15, 20,
ouais.
Peu importe, comprenez, ouais. Là, qui ne sont pas 20, évidemment, mais qui sont disponibles ce soir. Fait que, je pense qu'avec ça, il y aura cette montée-là du Canadien, mais il y aura cette montée-là pour Suzuki, pour Caulfield, pour Hudson, pour Demidov, pour Slavkovski et compagnie.
Puis pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, je fais un parallèle avec 2021 quand le Canadien, c'était... L'équipe Cendrillon qui s'est rendue en finale de la Coupe cette année, même là, puis je sais que c'était dans un temps de pandémie, mais il n'y avait pas autant d'attention médiatique que le Canadien présentement. C'était quand même une histoire impressionnante.
Mais c'est sûr. Il n'y avait rien de sexy. C'est Carey Price.
Je suis d'accord.
C'est un jeune Caulfield, c'est un jeune Suzuki, c'est un Toffoli qui est un bon joueur, mais qui n'est pas une vedette. C'est Philippe Dano, c'est Tatar, c'est Gallagher.
Ouais.
C'est Weber qui est comme monsieur un peu beige, Chirot. Tu sais, c'est pas...
C'est moi, exact. Tous ces gars-là.
Rien de sexy outre Carey Price. Mm-hmm. Puis je m'excuse, mais un gardien de but, ça fait pas vendre.
Non, non.
Ça fait pas cliquer.
De moins en moins aussi.
Ah ouais, c'est ça, de moins en moins. On veut des buts, on veut des fins, on veut des Michigan, man.
C'est ça qu'on recherche pour les télédiffuseurs. Fait que ton point est bon, là, parce que le Canadien, à l'époque, même s'il était en finale, c'était comme un peu... On regardait ça de haut.
Exact, exact. Non, vraiment, c'était quand même une situation particulière, mais c'est le fun de voir le Canadien présentement connaître autant de succès. Puis, écoute, je pense qu'à matin, Tony Marcotte, je pense qu'il l'a dit 7 fois qu'il avait donc bien du fun à regarder le Canadien, puis vous autres ici, la gang, puis c'est vrai.
Mais c'est vrai, certain.
Ça nous met, écoute, il nous donne le sourire aux lèvres tout le temps.
Quel âge que t'as, Hugo?
J'ai 27.
T'es à 27. Tous les gars sur le powerplay sont vraiment plus jeunes que toi.
Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est
incroyable. Suzuki, Caulfield,
Demidov, Watson,
Slavkovski. Ce sera ces 5 gars-là encore longtemps.
Pour longtemps. Là.
Et la rondelle, elle circule et on a des chances de marquer et ça fait gagner des matchs.
Ça va être de mieux en mieux.
Ça tient la foule en haleine sur le bout de son siège et ça va être de mieux en mieux. Ce sera vraiment une force pour le Canadien, vraiment pour les prochaines années. Un autre trophée, Jacob?
Oui, je termine avec le trophée Selke, mais cette fois-ci, c'est ESPN. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on met Nick Suzuki comme favori, suivi de Anthony Cirelli et Andrei Kopitar. Est-ce que vous y croyez que c'est la bonne année pour Nick Suzuki de remporter le Selke?
Ouais.
Tout s'enligne en ce moment. Puis un peu plus tôt dans la saison, on avait parlé du fait que, comme justement, c'était une histoire de gang, puis le Selke, etc. Mais là, en ce moment, il va rentrer dans la gang.
Ouais, puis cette année, on vient de le dire pour la vitrine, là.
Ouais.
Les Jeux Olympiques, ça n'ira pas. Là. Il aura l'occasion de se mettre en valeur aussi sur une autre plateforme où est-ce que tout le monde va regarder, évidemment, les matchs du Canada et des États-Unis. Mais lorsque ce sera le Canada, ben, Suzuki sera en action, pourra aussi montrer ses attitudes défensives. Parce que défensive, ce sera ça, au final, là, sa responsabilité.
Ça va être son rôle,
Fait que, non, moi, je pense, je dirais pas que c'est dans la poche pour le Selke, mais nettement favori au moment où on se parle.
Ouais, exactement.
L'obtention du trophée. D'ailleurs, parlant des Olympiques, les gars, je l'ai avec mon radar. Année très difficile pour Mark Scheifele. Je m'explique. Scheifele, ignoré aux Olympiques, comme vous le savez, ignoré à la Coupe des Quatre Nations. Son équipe en arrache. Ils sont passés de premier à dernier au classement général. Il avait perdu son père de façon dramatique. Souvenez-vous, pendant les séries éliminatoires, il était au banc des punitions lorsque le but gagnant a été inscrit pour éliminer les Jets de Winnipeg. Tu sais, c'est quand même une année, honnêtement. Je réalisais ça l'autre jour, puis je me disais, waouh, oui, il performe. Là. Il a 48 points en 41 matchs au moment qu'on enregistre. Bon. Tu sais, ça fonctionne bien pour lui individuellement, mais on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne pour lui outre que ses performances à lui.
Est-ce que vous pensez que ça va être une belle occasion pour les Jets de peut-être être vendeur puis de considérer un changement d'environnement pour Mark Scheifele? Est-ce que vous pensez que ça pourrait y faire du bien?
Ben, il a signé long terme. Scheifele, il n'y a pas si longtemps. Fait que je serais très surpris.
Ça fait quand même partie de l'identité aussi du côté des Jets. Là. Ça serait un gros statement que de dire qu'un Scheifele, on est prêt à se départir de lui puis de tourner la page. Là.
Moi, je pense que c'est impossible.
C'est parce un lock pour les Jets, jusqu'à au moins la dernière année de son contrat.
Il a signé ce contrat jusqu'en 2031. Ah, et nomme-moi des joueurs qui vont lever la main pour aller jouer du côté de Winnipeg.
D'accord. Puis je pense pas que Kevin Chiavelle-Dayoff, c'est le genre de gars qui va...
Non, mais c'est la réalité.
Ouais.
Et si t'as la chance d'avoir un joueur...
Non, personne veut jouer à Winnipeg.
Tu sais, Scheifele, la raison pour laquelle il n'est pas avec l'équipe canadienne, ben c'est parce que l'équipe canadienne compte sur des McKinnon, des McDavid. Parce que sinon, il serait là.
Ouais.
Mais là, il y a déjà des joueurs qui remplissent ce rôle-là, puis là, on veut des joueurs un peu plus défensifs, des joueurs qui frappent, des joueurs qui dérangent. Et là, finalement, lui, il se retrouve qu'il n'y a pas de chaise.
Mm-hmm.
Mais c'est un excellent joueur quand même. Mais si tu as un Scheifele et tu as un excellent joueur comme ça, que tu laisses partir alors qu'il est sous contrat dans la ville de Winnipeg, je pense que tu fais erreur sur toute la ligne.
Je peux comprendre aussi.
Surtout que, imagine, là, si tu es les Jets, à chaque fois que tu procèdes à une transaction, à 99% des cas, faut que le gars n'ait pas de clause. Ouais. Parce que moindrement qu'il y a une clause de 5 équipes, 10 équipes,
c'est terminé.
C'est sûr.
T'es-tu?
Ouais, puis tu dois être ouvert à surpayer pour l'avoir. C'est sûr que tu dois donner peut-être un élément de plus.
Ben, je sais pas si tu dois surpayer pour une transaction, mais si tu veux l'attirer comme joueur autonome, là, c'est sûr que tu surpayes.
Ben ouais,
mais
c'est
ça, on a déjà fait l'exercice au début de l'année.
Ouais.
Faut quasiment monter il y a 10 ans pour trouver un joueur autonome digne de mention qui a signé à Winnipeg.
C'est vrai. Ça fait vraiment longtemps.
On n'arrêtait pas de le dire concernant Hellebuck de toute façon. Avec son nouveau contrat, on se dit si ce gars-là veut jouer à Winnipeg, signe-le et à long terme. Le nonobstant de ses performances en série, peu importe, il est bon en saison, tu le gardes pour autant que tu peux.
Ben oui.
Je pense que c'est la même chose pour Scheifele, puis aussi fait partie de ton identité. Je pense que tu as d'autres ménages à faire, puis d'autres choses à changer autour de ce noyau-là pour essayer de voir si ça peut marcher. Parce que avant le début de la saison, on se disait que les Jets, là, ça pouvait quand même fonctionner.
Ben oui, qui avait prédit qu'il serait premier janvier 2025? 32e 1er janvier 2026.
Exact. Je suis d'accord avec toi, tu sais, puis je pense aussi que ça dépend, tu sais, des marchés canadiens, puis en tout cas, il y a pas Kevin Cheveldayoff avait pas, mettons, autant les mains liées que Patrick Alvin, même s'il reste pas beaucoup de temps.
Ouais, parce qu'il y avait pas de saga.
Exact.
Il y en a eu par le passé, des Lainé, des Dubois, mais ça a été quand même nettoyé. Je pense que on a peut-être sous-estimé la perte de Nick Ehlers.
Ouais.
On a été très impacté par la blessure d'Hellebuck. Ça a été comme une tempête parfaite et finalement, on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui.
Je suis d'accord.
Ça va être tough pour les Jets. T'sais, je regarde le classement. Là. Présentement, on est encore dernier, mais on est surtout à 11 points d'une place en série dans une division extrêmement compétitive.
Ben oui. C'est après l'Atlantique, c'est la plus le fun à suivre, honnêtement. Moi, je trouve.
Définis le fun.
Ben, la qualité des équipes. Je pense qu'il y a des courses intéressantes aussi. Le Wild du Minnesota qui revient naturellement des Stars et l'Avalanche qui sont au sommet de cette division-là.
Mais quand tu dis la qualité des équipes, je te suis pas. Pour moi, la division la plus relevée, c'est la centrale.
Ouais, mais c'est ça, je parle. Ah, ouais, excusez-moi.
Parce que t'as dit après l'Atlantique.
Ouais, non, je me suis mélangé. Mais c'est la centrale. Non, on parlait de la centrale. Les Jets sont dans la centrale.
Ouais, c'est parce que t'as dit après l'Atlantique, c'est la division la plus le fun.
Ouais, après la division Atlantique.
Toi, tu penses que c'est la plus.
Ah, oui, de moi, c'est de loin la division la plus compétitive, là.
Ah, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que l'Atlantique, c'est quand même le fun de suivre tout ça. Puis la course au sommet de la division tout le temps avec les Wings, le Lightning, les Canadiens.
Ok, ben c'est ça. On parle pas de la même chose. Toi, tu parles de plaisir à regarder. Moi, je te parle de puissance de formation.
Ah, ok, non, c'est pas le même.
C'est ça. Correct. Je suis d'accord que c'est le fun à suivre la course de l'Atlantique, mais pour moi, les trois meilleures ou presque équipes
sont dans la centrale.
On est d'accord avec ça.
Ok, parfait. On n'était pas sur la même page.
Mais oui.
Je veux vous parler de ce qui s'est passé avec Aiden Fleury. Freak accident, c'est dommage, il est tombé. Pour les gens qui n'ont pas vu la séquence, contact avec Keegan Colasar, il se retrouve quasiment comme assis sur la glace et son momentum l'amène vers la bande. Imaginez que c'est comme si la bande est derrière moi présentement et là, percute la tête sur la bande, fracture du cou, je pense.
Équité en civière,
vraiment, c'était très sérieux. Mais Colasar, c'est pas un geste salaud. Mais pendant que les gens médicaux, puis on débarque sur la patinoire pour aller s'enquérir de son état de santé puis le sortir de là, justement, sur civière. Adam Laurie va à côté de Colasar, puis là, tu vois que les deux se parlent. Finalement, on reprend l'action. Laisse tomber les mitaines, combat, s'en va dans le banc des punitions. Adam Laurie, son non-verbal, et Keegan Colasar, son non-verbal, les deux, c'est comme s'ils se disaient « Hey, merci, content que tu aies accepté le code. » Pas de problème, on passe à d'autres choses, on tourne la page. J'ai trouvé que c'était vraiment comme une belle scène. Évidemment, j'exclus la blessure, là. Mais une belle scène de hey, écoute, j'ai pas le choix, faut que je défende mon coéquipier. Pas de problème, je respecte ça, je comprends. On y va, on laisse tomber les gants, puis après ça, on se respecte là-dedans et on passe à autre chose. J'ai trouvé ça quand même chic dans les circonstances.
Ouais, ben c'est la preuve aussi que c'est des joueurs qui se respectent. Je pense Adam Laurie n'a pas de mauvaise réputation au sein de la ligne. Keegan Colasar non plus. C'est des gars, je pense, qui amènent beaucoup à leur équipe. Puis, c'est ça. Tu t'en as parlé. C'est le code. C'est important de respecter ça. Puis pour certains joueurs, il va être plus important que d'autres. Mais il est présent. Puis ça fait partie de la game de hockey. Puis c'est ce qui rend le sport très beau, selon moi.
Ouais, puis je pense que c'est une bonne démonstration du code que Georges nous parle tout le temps. Là. Je pense que là, on l'a compris. Puis on comprend des fois qu'il y a des frustrations face à des joueurs qui veulent pas jeter les gants, qui ne veulent pas répondre de leurs actes là, après ça. Mm-hmm. Puis parlant de joueurs qui vont peut-être devoir répondre de leurs actes, on va parler de Brad Marchand ce soir qui s'amène au Centre Bell. Pensez-vous qu'il va avoir des étincelles là, du côté du match Canadien-Panthers ce soir?
C'est sûr.
Tu seras-tu en uniforme?
Oui, c'est sûr.
Il a quitté de façon préventive dans le dernier match des Panthers.
Ouais. En tout cas, à Montréal, on ne manquera pas une occasion de huer Brad Marchand. Ça, je vous le confirme.
S'il est en uniforme,
c'est certain que quelqu'un va y rendre visite.
C'est sûr, sûr, sûr.
Et je pense pas qu'il va se défiler.
Moi non plus.
Je pense pas. Je pense que si Marchand, il se fait mettre au défi par quelqu'un de son poids, je sais que tantôt, on a avancé Gallagher, qui serait un client logique, je pense, pour Marchand. Parce que tu sais, ce showball, il est ben trop gros. Là.
Ouais, mais est-ce qu'on verrait un genre de AJ Greer, peut-être?
Défendre Marchand. Il faut que ce soit Marchand qui y aille.
Ouais.
C'est comme quand Paul Byron il avait fait un coup chien. Là, à un moment donné, il faut que tu répondes de tes actes. Là.
Mm-hmm.
Moi, c'est ma façon de penser. Je ne veux pas prôner la violence. Là, mais par contre, il faut que tu répondes de tes actes contre quelqu'un de ta catégorie de poids. Byron, ça a mis fin à sa carrière.
100%.
T'es bien trop gros. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu y ailles avec quelqu'un qui est similaire. Il faut quand même que le gars il ait une chance. Là. Il peut pas. Jacka n'ira pas sur Marchand. Là. Ça n'a pas de bon sens.
Non.
Fait que je m'attends quand même à ce que ça brasse un peu dans le match. Puis combiné à ça, le fait que le Canadien a battu 6 fois de suite les Panthers aussi. Là.
Mm-hmm.
Les Panthers, ils ont pas envie. Ils sont double champion en titre. Là. Et il y a des choses à prouver. Puis le Canadien est rendu quand même dans les premières équipes de l'Atlantique. Les Panthers, avec une victoire, rentreraient dans le portrait des séries. C'est un match important pour eux. Ça va être une grosse rencontre.
Ça va être intense. J'ai hâte de voir ça. J'aime aussi, c'est ça, toute l'anticipation derrière ce match-là. Voir, au moment où on enregistre, on ne sait pas s'il y a encore le gardien partant. Mais,
ça va être Montembeault.
Ouais, probablement Montembeault. Encore une fois, une belle opportunité pour lui de vaincre son ancienne équipe.
Ouais, puis il les a battus il n'y a pas si longtemps.
Exact.
D'après moi, ce sera Montembeault. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec Dobesch, parce que là, ça commence à faire plusieurs matchs de suite qu'il n'est pas sur la patinoire. Un seul départ depuis le 21 décembre dans le cas de Dobesch. Une victoire, certes, mais il avait accordé 5 buts contre les Hurricanes. Je pense qu'on est moins enclin du côté de Martin Saint-Louis de le renvoyer dans la mêlée. Ça aurait été intéressant, cette gestion-là. Je ne serais pas surpris, lui qui n'a pas à passer par le balotage, qui a joué quelques matchs là, avec le Rocket pour garder aussi un peu la forme, un peu comme Montembeault a fait.
À part les Olympiques, pour faire du pouce là-dessus, à part les Olympiques, où probablement Jacob Fowler va aller faire un peu de temps à Laval, est-ce que c'est réaliste de penser qu'il pourrait revenir et finir la saison à Montréal, puis rester à Montréal par la suite?
Je pense que oui. Honnêtement, j'aurais jamais pensé ça. Puis je le répète, je le dis plus tôt, mais je le répète. Je me suis trompé sur celle-là. Je pensais que c'était précipité, puis que c'était un court échantillon. Finalement, Fowler, et je pense que même Fowler brouille les cartes au sein de l'état-major du Canadien. Mm-hmm. Je pense pas qu'on avait ça dans nos cartons. Là. Il en surprend plus d'un. Puis oui, c'est vraiment pas impossible que Jacob Fowler termine la saison à Montréal.
En tout cas, il est super impressionnant. Puis là, je vais dire encore une affaire d'équipement. Vous allez voir, c'est genre mon petit créneau d'équipement d'Arden Vue. Jacob Fowler a mis des stickers du Canadien sur son casque d'Iron Man avec son numéro maintenant. Est-ce que ça veut dire que c'est officiel? Je sais pas. Mais d'habitude, quand un gardien de but change ses couleurs puis ajuste des affaires, ça veut dire des choses. Et là, c'est comme s'il avait officialisé.
OK, c'est intéressant. Intéressant.
Mais une chose est sûre, il force la main aux dirigeants de le garder dans le giron du Canadien jusqu'à la fin de la saison. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les performances le prouvent. Puis moi, l'important avec Fowler cette année, c'est qu'il joue.
Ouais.
Peu importe il est où, ça me dérange pas.
C'est le bon point.
Fait que s'il est à Montréal pour jouer, ben qu'il joue.
C'est pour ça que le ménage à 3, c'est bien correct, là, c'est parfait, là, c'est bien beau, là, mais de m'emmener Fowler, il est pas là pour manger du popcorn.
S'il
est pour manger du popcorn, faites-le jouer en bas.
Ouais, exactement. Ouais. Puis je pense que ça risque d'être une utilisation 50-50 par la suite. Là. Tout dépendant de quel gardien on renvoie en bas, si c'est Fowler, il va arrêter plus de rondelles à Laval. Si c'est Dobesch, on doit utiliser Fowler à 50-50.
Ça s'applique pour Dobesch.
Oui, même chose.
Dobesch, il n'a pas 28 ans. Là. Je veux dire, c'est encore un jeune gardien.
C'est vrai.
On en parlait au début de l'année pour un potentiel candidat au Calder. On n'y croyait pas vraiment, mais tu sais, il avait tellement bien commencé, puis même recru du mois, puis des affaires de même pour Dobesch. Lui aussi, il a besoin il a besoin de se mettre en valeur. Il n'aime pas ça, là, un seul départ depuis le 21 décembre. Ben, c'est parfait là, si jamais, éventuellement, hypothétiquement, il est rétrogradé dans la Ligue américaine et qu'il voit beaucoup de caoutchouc. Pour reprendre la forme ensuite.
C'est ça, tu sais, il pourrait devenir une monnaie d'échange un jour, peu importe. Là, tu veux que tous tes jeunes dans l'organisation puissent grandir, peu importe où ils sont. Dans l'optique du Canadien, Fowler est ma priorité, je veux qu'il joue. Une fois que tu as réglé ce dossier-là, viendra ce qui viendra pour Dobesch.
J'espère que ça s'est bien passé pour ton podcast avec nous, Jacob.
Écoute, super.
La voix a tenu.
La voix tenue, mais c'était là, vraiment bien. Ouais, ça commence à être compliqué.
Bon. Tu t'es prêté au jeu d'essayer de placer des mots cette semaine. On te rouvrira la semaine prochaine quel était le mot que tu avais employé. Mais d'ici là, lors de notre dernier épisode, ça fait quand même longtemps.
Fair but.
Hugo, tu avais eu à placer Léopard.
Oui.
Je me souviens Léopard. Pas dans quel contexte tu l'avais
J'avais
placé.
J'avais placé Léopard quand je faisais référence au bain médiatique de Vancouver. Puis je disais que c'était une jungle. Puis le journaliste avait Léopard.
OK. Parfait.
Voilà.
C'est très bon. j'avais écouté le riz. J'ai aucune idée dans quel contexte je l'ai dit.
Tu parlais d'un joueur qui avait tous les outils. Puis tu disais, il y a toute la cutellerie ou genre. Le dos de la cuillère. En tout cas, t'avais une référence à une cuillère et une fourchette.
T'es sûr, tu sais?
Oui.
On va aller avoir la réponse dans les prochaines secondes. Et Oli avait le mot disciple. On vous laisse écouter les extraits.
Je sais pas si vous savez, mais à Vancouver, là, c'est comme une jungle. Les journalistes, là, c'est des léopards qui chassent leur proie. Puis sont là. Puis la proie, c'est Patrick Alvin, Jim Rutherford, 24-7. Là. Mm-hmm. Tout le temps, tout le temps.
Là, il vient de se faire marquer un but par son ancienne équipe. À chaque fois, ça devait être comme un petit couteau dans le dos. Là. Tu devais avoir l'impression. Ouais. Mais là, c'est le millième point de Leon Draisaitl. Et là, tout le monde célèbre juste à côté de lui. Il devait avoir l'impression d'avoir la coutellerie au complet dans le dos. Là.
Ouais. En plus, Samuel Montembeau, il a cette familiarité-là avec Marco Marciano. Lui, son coach, il a pas côtoyé Marciano à Blainville-Boisbriand, mais il y avait Maxime Vaillancourt qui est son disciple à Marciano et qui se connaissent de là.
C'est vrai.
Puis,
Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine avec Jacob qui est venu en remplacement d'Olivier.
Sir.
Ce sera Olivier qui sera à nouveau à son poste la semaine prochaine. Et nous, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre épisode de Radar.